L'opérateur de la Bourse de Paris cède en revanche 2%, 45,72 €, après la sortie partielle de BNP Paribas et Société Générale de son capital. C'était Cécile Lecoz d'Investir pour RFI.
Et il est 10h10, Juan Gomez vous attend.
Merci Alexandra Cagnard, prochain journal dans 20 minutes.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Dans un instant, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, s'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, et bien surtout, n'hésitez pas, appelez-nous ici à Paris et la rédaction d'RFI se fait évidemment un plaisir de vous répondre. Nos correspondants, nos envoyés spéciaux, nos experts ici au sein de la rédaction, 33 9 693 693 70. Vos questions également sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission RFI, appel sur l'actualité. N'oubliez pas de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler, que vous puissiez évidemment poser votre question en direct sur notre antenne. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat et nous parlerons de la polémique autour de la réforme constitutionnelle au Tchad. C'est théoriquement à la fin de ce mois, lors d'un forum national, que sera présenté le projet de nouvelle constitution. Mais face à la gravité de la situation politique et économique du pays, l'opposition refuse d'y participer. Pas question, dit-elle, de faire de la figuration. Elle préfère plutôt qu'un dialogue politique inclusif soit organisé plutôt que de débattre autour d'une révision de la Constitution. Elle estime que ce projet-là n'est en rien une urgence au regard donc des troubles sociopolitiques et économiques qui secouent le pays depuis maintenant de nombreux mois. Vous nous appelez, on a envie de vous entendre évidemment sur ce bras de fer entre le pouvoir et l'opposition. 33 9 693 693 70. Vos questions comme premier. Des questions sur les répercussions de la crise diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Bonjour Mogo.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez d'Annecy en Haute-Savoie. On vous écoute.
Bonjour, j'ai une question. Comme vous venez de le dire, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a rompu ses relations diplomatiques avec le Qatar. Alors qu'il y a un an, il a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran pour soutenir Riyad. Que justifie ce soutien fort apporté par le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, à l'Arabie Saoudite? Ma deuxième question. 90% de la population comorienne sont contre cette décision. On a même vu des manifestations aux Comores pour montrer le ras-le-bol. Et pourquoi?
Ah, pourquoi l'opinion publique est-elle inquiète effectivement de cette décision du président Azali? Alors c'est vrai que on en parlait d'ailleurs ici même lundi dans l'émission, ce bras de fer entre l'Arabie Saoudite et le Qatar se joue également sur le continent africain. On a vu des pays, par solidarité avec Riyad, rappeler leur ambassadeur, c'est le cas du Sénégal, du Niger et du Tchad, et d'autres comme la Mauritanie et les Comores ont décidé tout simplement de rompre leur relation avec Doha. Bonjour Anzizam Changama.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la correspondante d'RFI aux Comores. Expliquez-nous comment le président Azali soutient-il de façon indéfectible, il n'y a pas d'autre mot, l'Arabie Saoudite.
Alors, avant tout, je voudrais préciser par rapport à la question de l'auditeur que les liens diplomatiques avec l'Iran avaient été rompus, non pas par l'actuel président Azali Assoumani, mais par son prédécesseur, et qui loue Douanine. Et effectivement, là-dessus, il y a vraiment une continuité. Il faut savoir que les liens entre les Comores et l'Arabie Saoudite remontent à 1979. Donc, il faut d'abord comprendre l'importance de la religion en Union des Comores, qui s'est d'ailleurs longtemps appelée République islamique des Comores. Un pays musulman, donc, est inscrit dans le courant sunnite. C'est sur ce point-là que s'appuie en grande partie l'alliance entre l'Arabie Saoudite et les Comores. C'est en tout cas sous cet angle-là que les gouvernements successifs l'ont toujours présenté au peuple comorien. Et cela fonctionnait car plus qu'un pays ami, ça a toujours été un pays frère.
Oui, un pays frère qui soutient les Comores à coups de millions de dollars.
Et oui, et qui refuserait les dons divers et variés d'un frère aussi fortuné? Le Royaume d'Arabie Saoudite a aidé les Comores dans différents domaines, allant de l'éducation à la santé, en passant par les transports ou les infrastructures. Ce qu'il y a de particulier avec les dons octroyés par Riyad à Moroni, c'est qu'ils ne sont pas toujours sous forme de financement de projets concrets, comme c'est le cas d'autres pays représentés diplomatiquement aux Comores. L'Arabie Saoudite offre parfois un appui purement financier, comme les 40 millions d'euros versés il y a 18 mois. Donc la religion et l'argent, deux bonnes raisons de rester amis envers et contre tout.
Ouais, envers et contre tous, effectivement. Alors Mogo, qui est en Haute-Savoie, nous disait que cette décision du président Azali de rompre avec le Qatar était loin de faire l'unanimité aux Comores. Pourquoi ?
Oui, effectivement, l'opinion s'inquiète de ce soutien indéfectible, vous le disiez, car au nom d'une loyauté envers Riyad, les Comores risquent de s'aliéner plusieurs autres nations, et c'est un luxe que l'archipel de l'océan Indien ne peut pas s'offrir, on le sait. L'année dernière, suite à la prise de position en faveur de l'Arabie Saoudite contre l'Iran, dont l'ambassade de Moroni avait immédiatement fermé, c'est aussi un centre de formation professionnelle qui a fermé ses portes, et c'est également une clinique iranienne qui a cessé de tourner à plein régime. La décision de rompre les liens diplomatiques avec les pays du Golfe a des conséquences importantes pour le Soudan.
Oui, effectivement, les conséquences si des cliniques et des écoles ferment. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a aussi une portée, on va dire, de politique intérieure dans ces différentes décisions.
Oui, effectivement, il y a une guerre ensuite, une guerre interne de politique comoro-comorienne, je dirais, puisque l'Iran, comme le Qatar aujourd'hui, avait été installé, entre guillemets, par l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Il ne s'est d'ailleurs pas privé de faire une sortie très remarquée pour condamner ce choix de rupture diplomatique du président Azali avec le Qatar. Azali est un président élu l'an dernier, entre autres, grâce à son alliance avec Jua, le parti de Sambi. Donc si l'alliance entre les deux partis prenait déjà l'eau à l'Assemblée nationale ou au sein du gouvernement, cette position très tranchée de Sambi vient vraiment mettre le feu aux poudres. Et des cadres de la CRC, le parti du président Azali, réclament d'ailleurs le divorce, que le divorce soit officialisé entre les deux formations politiques. On marche dans le rang ou on dégage. Mmh. Et c'est cet aspect totalitaire justement qui commence à interroger la population, puisque le président Azali a pris cette décision contre le Qatar, alors même qu'il n'était pas obligé d'une part, et surtout qu'il n'en avait discuté avec personne, ni les membres de son gouvernement, ni les membres de l'opposition, les autres formations politiques du pays. Il a simplement annoncé à ses ministres avant de rendre sa décision publique à la sortie du Conseil. Et de plus, le Qatar a également investi dans le secteur privé comorien, un hôtel, une entreprise de pêche, une usine d'eau minérale, autant de sources d'emploi dont l'opinion publique se demande ce qu'elles deviendront si la situation devait perdurer ainsi.
Oui, effectivement. Si vous êtes aux Comores, appelez-nous, on a envie de vous entendre justement sur cette prise de position du président Azali, lui qui prend parti, donc faites et cause pour l'Arabie Saoudite. On en parlera certainement vendredi dans la Libre Antenne, 33 9 693 693 70. Merci beaucoup Anziza d'avoir été en direct avec nous. Mogo, bonne journée en Haute-Savoie et merci d'écouter RFI sur internet rfi.fr. Il est 10h18 à Paris, ce sont vos questions à la rédaction. Stanislas Daechimier, qu'on a pu suivre ces deux derniers jours à Berlin où s'est tenu un mini-sommet G20 Afrique. Stanislas est à mes côtés, bonjour.
Bonjour Yoann.
On vous a demandé de venir ce matin dans ce studio car évidemment ce mini-sommet a suscité des questions au standard. Donald, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue, vous nous écoutez à Orléans.
Oui, merci Juan, bonjour.
On vous écoute.
L'Allemagne est actuellement à la présidence du G20 et a convié 10 pays d'États africains à une conférence intitulée « Partenariat G20, investi pour un avenir en commun ». Alors, ma question est celle-ci. Comment Berlin compte-t-il s'y prendre pour mettre en place ces partenariats et attirer plus d'investisseurs ?
Alors, Stanislas Daechimier, c'est vrai que l'Allemagne a fait du partenariat avec l'Afrique une priorité de sa présidence du G20. On l'a vu ces deux derniers jours avec cette conférence organisée à Berlin pour favoriser les investissements privés sur le continent. Bonne question de Donald. Comment l'Allemagne va-t-elle s'y prendre pour attirer les investisseurs privés en Afrique ?
Eh bien, l'Allemagne représente aujourd'hui moins de 2% du commerce extérieur allemand. L'Allemagne veut donc d'abord conquérir ce marché largement dominé aujourd'hui par trois pays seulement, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie. Et la réflexion allemande est que pour augmenter le volume de ses exportations vers l'Afrique, il faut rehausser le niveau de vie sur le continent. Il faut donc que les économies des différents pays connaissent une croissance durable, parce que pour l'instant, on parle depuis quelques années, à part ces deux dernières années, de croissance soutenue en Afrique. Et prenant l'exemple de son modèle, donc le modèle allemand, et en accord avec les autres pays membres du G20, l'Allemagne se dit que le développement de l'Afrique ne sera possible que si les investisseurs privés des pays riches s'impliquent. Et c'est là la seule nouveauté du programme Compact with Africa par rapport à ce qui se faisait aujourd'hui, l'accent particulier mis sur le rôle du secteur privé. Tous les orateurs de la conférence de Berlin ont été unanimes. L'aide publique au développement a montré ses limites.
L'aide publique au développement a montré ses limites. Faut-il comprendre par là, Stanislas, que l'aide publique va se réduire?
Non, pas vraiment. Au contraire, l'idée, c'est de favoriser les partenariats publics-privés. Selon un expert de la Banque africaine de développement, l'aide publique bilatérale et les institutions financières internationales, comme la BAD justement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, vont aider les pays du continent à prendre en charge l'assurance des risques. C'est l'une des façons d'attirer les investisseurs privés en leur montrant que les principaux risques sont couverts. Et chaque pays africain intéressé devra évidemment améliorer son climat des affaires.
Et cette ambition de participer au développement de l'Afrique a un objectif.
La stabilité partout. La chancelière allemande a dit lundi à Berlin que, je la cite, « la mondialisation ne nous tombe pas dessus ». Le thème de la présidence allemande du G20 cette année, c'est que nous vivons dans un monde interconnecté. L'objectif visé par Compact with Africa, c'est d'éliminer la grande pauvreté, ce qui permettra de réduire le flux migratoire et les causes du terrorisme.
Donald, vous avez une autre question, je crois.
Oui, Juan. Ma deuxième question, je voulais savoir. Le programme Compact with Africa, voulu par le Berlin, pourra-t-il s'appliquer à l'ensemble des pays africains ou à ceux qui ont été conviés à cette conférence?
Ah, qui va pouvoir bénéficier de ce programme mis en place par l'Allemagne?
Le programme concernera à terme tous les pays. Il faudra manifester le souhait d'entrer dans le programme, mais aussi la volonté en améliorant la gestion des États par les dirigeants au pouvoir, mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Pour l'instant, 7 pays ont manifesté le souhait d'entrer dans le programme Compact with Africa, mais lundi soir, Berlin a qualifié 3. La Côte d'Ivoire, le Ghana et la Tunisie vont donc bénéficier des investissements liés à ce programme. Les 3 pays ont été qualifiés de réformateurs. L'Allemagne a précisé que même s'ils sont ouverts à tous les pays, les futurs partenariats pour les investissements dans le cadre de ce Compact with Africa feront l'objet de délibérations entre les pays du G20 et 10 chefs d'État et de gouvernement africains.
À suivre donc. Merci beaucoup Stanislas Zaïchimier, Donald. Merci de votre fidélité. Bonne journée à Orléans. 33 9 693 693 70. Philippe Zigraf du service des sports nous rejoint. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On va parler football avec une question sur l'attaquant espagnol Diego Costa. Bonjour So.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à l'ensemble de vos formidables collaborateurs.
Merci pour eux, merci de vos encouragements. Vous nous appelez de Conakry, nous vous écoutons.
En effet, j'ai appris la semaine dernière que Diego Costa disait que son entraîneur Antonio Conte de Chelsea lui aurait fait savoir à travers un SMS qu'il ne compterait plus sur lui dans son effectif la saison prochaine. Alors j'ai envie de comprendre pourquoi, comment peut-on expliquer cette décision de l'entraîneur de Chelsea sachant que Diego Costa est l'un des meilleurs attaquants de Chelsea.
Oui.
Ensuite, qu'est-ce que Chelsea pourrait se priver d'un tel attaquant alors qu'ils devraient faire leur retour en Ligue des Champions la saison prochaine?
Philippe Zigraf, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Diego Costa, l'un des meilleurs buteurs de Chelsea, se retrouve finalement expulsé de cette équipe, en plus par SMS. Que se passe-t-il dans la tête de l'entraîneur?
Oui, alors d'abord, effectivement, la manière dont a parlé, SMS, c'est un petit message par un réseau social. À travers ce réseau social, qu'Antonio Conte a prévenu Diego Costa qu'il ne comptait plus sur lui pour la saison à venir. Alors c'est une méthode originale, évidemment, mais pas très correct, hein, autant se parler face à face, mais ce que n'a pas fait l'entraîneur. Et ça vient confirmer, et là je réponds donc à la question de Sceaux, ça vient confirmer l'état déplorable des relations entre les deux hommes, hein, tout au long de la saison écoulée. On rappelle quand même que Diego Costa, et c'est vrai, est un très bon joueur, a fait une très bonne saison, 20 buts marqués en première ligue, le championnat anglais de première division, 8 passes décisives, donc 20 buts en jouant 35 matchs de première ligue, et tous en tant que titulaire.
Oui, alors les relations sont exécrables, ce qui n'empêche pas donc Antonio Conte de le mettre sur le terrain très régulièrement. Antonio Conte, en tout cas, prouve qu'il est plutôt intelligent.
Bah oui, parce qu'il ne mélange pas tout. Alors, il sait que Diego Costa est un très très bon joueur et il ne s'est pas privé de l'utiliser quasiment à tous les matchs. On le disait, 35 matchs de Première Ligue, tous titulaires. Et puis, on rappelle que Chelsea a décroché le titre de champion. Hein. Et pourtant, eh bien, leurs relations se sont détériorées, mais dès le début de la saison, dès les premiers entraînements, puisque Antonio Conte est arrivé en début de saison dernière, en août 2016. Et dès son arrivée, là, Diego Costa a annoncé la couleur à son entraîneur. Il lui a dit « Oui, je suis bien à Chelsea, mais j'aimerais bien partir et j'aimerais surtout retourner au club qui m'a fait connaître, qui m'a révélé, l'Atlético de Madrid. » Alors ça a tout de suite jeté un froid entre les deux hommes. Et leur mésentente a duré en fait toute la saison. Et certains médias anglais, qui sont toujours friands de petites choses comme ça, ont même écrit, parfois c'est pas toujours juste, mais bon, ils ont même écrit et ils ont dit que les deux hommes en étaient venus aux mains dans les vestiaires, ce qui n'a jamais été confirmé par les autres joueurs.
Et il y a même eu un incident en public, je crois.
Oui, alors c'était en championnat lors d'un match contre Leicester, le champion sortant. Conte assommait Diego Costa de consignes. Il était sur le terrain, Costa. Mm-hmm. Et Conte n'arrêtait pas de le critiquer, lui donner des consignes pendant le match. Le joueur en a eu assez. On connaît son tempérament sanguin. Il a demandé à être remplacé avec des gestes plutôt agressifs envers son entraîneur. Et Conte l'a tout simplement puni en le privant d'entraînement pendant quelques jours. Et puis un autre épisode, Conte n'a pas du tout apprécié que Costa aille faire un petit tour à Madrid et déjeune avec Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético. Ouais. Donc voilà, c'est un climat un petit peu pourri, si je puis dire, depuis le début de la saison et tout au long de la saison entre les deux hommes.
D'où le divorce. Sou nous demandait si Chelsea pouvait se permettre finalement de se passer d'un attaquant comme Diego Costa, d'autant que le club fera la saison prochaine son retour en Ligue des Champions.
Oui, alors on peut se poser la question de savoir si Antonio Conte sera seul décideur. Non, il y a les dirigeants également qui sont là, parce qu'il y a l'aspect financier. Il a encore 2 ans de contrat, c'est énorme. Hein, et on le disait, il a été très performant cette saison, mais c'est vrai que lorsqu'il y a incompatibilité entre un joueur et un entraîneur, en général, l'aventure s'arrête là. Alors s'il s'en va, eh bien Costa n'ira pas n'importe où. On a parlé de la Chine, mais même avec un contrat lucratif, lui, il n'en veut pas. Il veut être dans un grand club européen pour jouer encore la Ligue des Champions. Et il aimerait, on le disait, revenir à l'Atlético. Mais le club espagnol, gros problème, est interdit de recrutement jusqu'au 31 décembre. C'est une affaire FIFA et pour infraction au règlement de la FIFA sur le transfert de joueurs mineurs pour son équipe réserve. Alors Costa, lui, se voit bien racheté, entre guillemets, hein, par l'Atlético, qui le prêterait 6 mois dans un autre club et qui le récupérerait le 1er janvier 2018. Alors lui, il envisage cette option, évidemment, mais reste à savoir si l'Atlético est d'accord et si financièrement le dossier pourra se monter, parce que on rappelle qu'il a encore 2 ans de contrat. En tout cas, Chelsea et Costa, c'est fini, d'autant que Conte se répand dans la presse depuis quelques temps. Il veut le remplacer par un autre joueur de grand talent que l'on a remarqué en finale de Ligue des Champions il n'y a pas très longtemps, l'attaquant du Real Madrid, Alvaro Morata. Et pour information, mon cher Juan, la période des transferts, elle vient de débuter un petit peu partout en Europe et elle se poursuivra jusqu'au 31 août. Donc ce n'est pas demain, je pense qu'on saura la prochaine destination de Diego Costa.
Et on sera évidemment vigilant, attentif et on en parlera certainement dans Radio Foot International avec Annie Gasnier. So, on a répondu à vos questions?
Oui, merci au bas, Philippe Digras, la bibliothèque vivante du football africain.
La bibliothèque gentil, c'est trop vivante du football africain, mais il a raison, Sau de...
Vous êtes trop bon.
Mais non, on dit ce qu'on pense, Philippe. Merci d'être venu ce matin répondre donc à cet auditeur de Conakry. D'autres questions à la rédaction des RFI demain matin. D'ici là, surtout, n'hésitez pas, appelez-nous. Nous avons évidemment besoin de connaître vos questions en amont pour contacter les experts ici même au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants. Donc n'hésitez pas, le standard reste ouvert toute la journée. 39 693 693 70. Nous parlerons juste après le journal de la polémique autour de la réforme constitutionnelle au Tchad. C'est théoriquement dans quelques semaines que nous connaîtrons le texte, le contenu de cette nouvelle constitution. Tout cela sera présenté lors d'un forum national. Le problème, c'est que l'opposition boycotte ce forum national en disant que l'urgence aujourd'hui, la priorité aujourd'hui pour le Tchad, ce n'est pas de réformer la constitution, mais c'est de régler définitivement la crise politique, sociale et économique qui secoue le pays. Alors, qui a raison, selon vous, le pouvoir ou l'opposition? Nous vous donnerons évidemment la parole. Vos réactions sont déjà nombreuses sur la page Facebook de l'émission. Par exemple, Boula nous dit « Nous ne sommes pas dupes. Cette histoire de réforme des institutions n'est qu'une diversion pour détourner le débat des vrais problèmes et donc de la crise économique. » Taïrou estime qu'il est inconcevable que l'opposition donne ne serait-ce que son accord de principe à cette manœuvre qui a pour but d'endormir le peuple. Voilà, des réactions très critiques. On en parlera et on en débattra évidemment ensemble tout au long des 20 minutes du débat quotidien d'Appel sur l'actualité. À tout à l'heure, merci de votre fidélité.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.